nous sommes mercredi, jour de sortie cinéma. À l'affiche cette semaine, Les Promesses, avec Isabelle Huppert qui était notre invitée lundi. Une jeune fille qui va bien, de Sandrine Kiberlain, son premier film. Tiens, elle était notre invitée hier, ou encore presque, avec Bernard Campon et Alexandre Jolien. Tous ces films sont projetés dans les salles obscures, comme on dit, mais pour combien de temps? Tous ces films seront-ils un jour diffusés à la télévision? On pense que oui, mais quand et sur quel support? Eh bien, c'est la délicate question de la chronologie des médias. Et ce lundi, un accord a été signé entre le ministère de la Culture, des professionnels et des diffuseurs. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, s'en félicite, mais certains nuancent au point de ne pas avoir signé cet accord. Bonjour Pascal Regard.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, et vous n'avez pas signé cet accord lundi. On va revenir sur tout cela ensemble. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est la SACD? Quelle est sa mission?
La SACD, c'est la plus ancienne société d'auteurs du monde. Elle a été créée par Beaumarchais en 1777 et elle regroupe les auteurs de l'audiovisuel, du cinéma, enfin pour l'audiovisuel c'est la fiction, de l'animation et puis tout le spectacle vivant, le théâtre, l'opéra, la danse, voilà.
C'est-à-dire que c'est vous qui vous chargez de récupérer les droits auprès des diffuseurs et de les reverser aux auteurs qui ont écrit une pièce de théâtre ou un film.
Exactement.
Puisque le cinéma n'existait pas du temps de Beaumarchais, je n'apprends rien à personne. Comment définiriez-vous, pour Beaumarchais et pour les autres, ce qu'est la chronologie des médias?
La chronologie des médias, ça remonte à assez longtemps. C'était en fait une idée de Jacques Lang. C'est Jacques Lang qui, pour protéger l'exploitation cinématographique en salle de l'arrivée de la vidéo physique, à l'époque c'était pas les DVD, c'était les cassettes vidéo,
VHS.
A décidé dans la loi de 82 de mettre un délai de diffusion pour l'exploitation des cassettes vidéo. Et à l'époque, ce délai était de 12 mois avec des dérogations en fonction de la vie en salle des films, puisqu'on estimait, c'est normal, qu'un film qui avait fait très peu d'entrées pouvait sortir en vidéo beaucoup plus vite. Donc le point de départ, c'était ça, c'était protéger les salles de cinéma contre l'arrivée des vidéocassettes.
Ensuite, schématiquement, sont arrivées les télévisions. De mémoire, je cite ces chiffres sans avoir la feuille sous les yeux, les films passaient à la télévision 3 ans après leur sortie en salle, à une exception notable qui était celle de Canal+, c'était 1 an, mais à Canal+, il fallait s'abonner, et ainsi Canal+, contribuait au financement du cinéma.
C'était 3 ans pour la télévision claire, mais les films avaient un avantage quand les chaînes avaient un avantage, quand les films étaient coproduits, ça pouvait être 2 ans.
Voilà. D'accord. On en était là, et puis le monde a changé, je n'apprends rien à personne, est arrivé Internet, sont arrivées les plateformes, des nouvelles concertations sont arrivées, car les délais étaient complexes, personne n'arrivait à être totalement heureux de ce système. Il y a eu des concertations professionnelles avec le ministère de la Culture, vous y étiez. Comment cette concertation s'est-elle déroulée?
En réalité, il y a eu un changement majeur, c'est qu'avant la chronologie était fixée par l'État, par le gouvernement. Et le gouvernement, il défend plutôt l'intérêt général. Bon. Et à cause de Bruxelles, puisque Bruxelles a dit, vous ne pouvez pas fixer une chronologie en faisant partir le point de départ de l'exploitation en France. Il faut que ce soit la première exploitation en Europe. Et à l'époque, ça nous gênait beaucoup, puisque les films américains sortaient à Londres bien avant les films français en France. Et donc, ça donnait un avantage significatif aux films américains. Donc, on est passé d'un système où les règles étaient fixées par le gouvernement à un système où elles étaient fixées par les professionnels. Le principe de la directive étant la liberté contractuelle, c'est-à-dire que l'ayant droit doit déterminer avec le diffuseur le délai de diffusion du film. Et on a pu aller plus loin, on est passé par un système d'accord, l'accord est étendu et on revient un peu sur du réglementaire. Voilà.
Alors, rien que déjà là, c'est complexe,
oui,
et là,
c'est
la
complexe.
Loi a encore changé. Alors, juste un mot, est-ce que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, participait à vos réunions?
Non. Les réunions étaient menées au Centre National du Cinéma. Le Centre National du Cinéma a beaucoup fait pour faciliter un accord. Mais ce sont les professionnels eux-mêmes qui ont déterminé les règles.
Alors, je pose la question parce que Roselyne Bachelot a posté une photo de groupe hier. Elle a tweeté « Je salue l'engagement des partis et leur esprit de responsabilité collective qui ont permis d'aboutir à cet accord essentiel ». Vous étiez sur la photo, Pascal Regard?
Non, j'étais pas sur la photo. Et Roselyne Bachelot, elle n'a pas signé l'accord. Elle a laissé les autres professionnels signer devant elle.
Ouais.
Elle a dit que c'était très bien, mais elle n'a pas signé l'accord. Et moi, j'étais pas là, je revenais de Bretagne, vous voyez.
Volontairement?
Volontairement, oui.
Alors, pour illustrer concrètement cette chronologie des médias, on va faire un cas pratique avec le film Les Promesses, avec Isabelle Huppert, qui sort en salle aujourd'hui. Bande-annonce.
Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de mère. Vous avez peur de quoi exactement? D'assumer un peu d'ambition? Vous avez exactement le profil dont ce gouvernement a besoin.
Une chose.
Quelqu'un va vous contacter pour caler un rendez-vous.
Avec
le Premier ministre.
On me propose d'être ministre.
T'hésites?
Je vais me faire broyer.
Ça m'aiderait de comprendre.
Ah bah tiens, justement, à propos de ministre, on est allé fouiller la fiche technique de ce film Les Promesses. Parmi les coproducteurs, on retrouve France 2 Cinéma et dans les partenaires Canal+ et Ciné+. Alors concrètement, quelle va être la chronologie pour ce film? Quand pourra-t-on le voir sur Canal+? Quand pourra-t-on le voir en DVD, en Blu-ray? Et enfin, quand pourra-t-on le voir sur France 2, Pascal Regard?
Alors, cette chronologie, c'est 4 mois pour la vidéo, le téléchargement à l'acte. Éventuellement, mais je ne le souhaite pas, Isabelle Huppert, 3 mois si jamais elle fait moins de 100 000 entrées en salle. Ensuite, c'est 6 mois pour Canal+, ou éventuellement pour OCS, si le film avait été pris par OCS. C'est 15 mois pour Netflix, ce serait 17 mois si jamais le film passait sur Disney. Et ensuite, c'est 22 mois pour les chaînes en clair, donc pour France Télévisions.
Voilà, 15 mois pour Netflix. Avant, c'était 36. Disney+, Amazon Prime passent de 36 mois à 17 mois d'attente seulement. Mais ils n'ont pas signé l'accord. Pour quelles raisons certaines plateformes ont signé l'accord et pas d'autres?
C'est très simple. Les plateformes qui n'ont pas signé, enfin la plateforme qui n'a pas signé, la plus importante, c'est quand même Disney. Disney n'a pas signé parce que c'est une plateforme cinéma. Et qu'en plus des règles de chronologie, on leur a fait une interdiction lorsqu'ils vendent un film, par exemple à TF1 ou à France Télévisions, de laisser le film disponible sur la plateforme. Donc on a porté atteinte en quelque sorte à leur propriété intellectuelle. On les a repoussés très loin et en même temps on les oblige, s'ils vendent le film, à le vendre avec une exclusivité.
Bon. Pardonnez-moi, puisque vous participiez à ces réunions, pourquoi les plateformes ne sont-elles pas toutes logées à la même enseigne? Pourquoi il y a des contents et des mécontents?
Parce que la raison principale est que Netflix a signé pour embêter ses concurrents. Netflix n'est pas une plateforme vraiment cinéma. La force de Netflix, ce sont les séries, les téléfilms, et ils ont aussi du cinéma. Mais ce n'est pas une plateforme cinéma. Donc ça ne les gêne pas du tout d'accepter les deux règles, le 15 mois et la règle de protection à l'égard des télévisions en clair.
Alors maintenant, Pascal Regard, je vais arriver. Pascal Regard, vous êtes le directeur général de la SACD, la Société des auteurs, compositeurs, dramatiques. En quoi les auteurs que vous représentez sont-ils mécontents de cet accord? C'est la deuxième partie de cet entretien.
Bordel.
Avec Pascal Regard, le directeur général de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, on parle de la nouvelle chronologie des médias. Accord a été signé lundi avec le ministère de la Culture, avec les professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc Godard. À l'exception notable de vous, la SACD, rien ne change, je ne l'avais pas dit, donc je vais le dire, pour la chronologie des médias des chaînes gratuites. Ils auront le droit de diffuser les films après 22 mois. Juste un mot, cet accord est effectif à partir de quand? Ça va concerner les films qui sortiront quand, Pascal Regard?
L'accord en lui-même, il est effectif dès sa signature, c'est-à-dire lundi dernier. Et par contre, il sera rendu obligatoire pour ceux qui n'ont pas signé dès lors que sera publié l'arrêté d'extension qui le rend obligatoire pour tout le monde et ça sera dans les jours prochains.
Alors on va en venir à ce qui vous dérange dans cet accord. Pourquoi ne pas l'avoir signé?
Je ne l'ai pas signé pour deux raisons. La première, c'est qu'il fait courir un risque majeur en réalité aux salles de cinéma. Parce que les mécontents de cet accord, ce sont les deux grandes entreprises de vidéo à demande par abonnement, Disney qui est déjà lancé sur le marché français et Warner qui va se lancer dans à peu près un an, qui sont des grandes entreprises de cinéma. À elles deux, elles font à peu près 30%, enfin en 2020, elles ont fait 30% de la recette salle France. Et le moyen
pour elles... Parce qu'elles produisent des films, il faut expliquer.
Elles produisent
des films. On va voir en salle des films produits par la Warner ou par Disney.
Exactement. Elles ont fait en 2020 30% du marché des salles. Et si elles décident, qui est possible, de privilégier leur plateforme par rapport à la salle et donc à des règles qui les gênent considérablement, ça va affaiblir les salles. Si ça affaiblit les salles, ça affaiblit naturellement tout le financement du compte de soutien du CNC et ça affaiblit par là même le cinéma français parce que le cinéma français, il est fort parce qu'il est fort dans les salles de cinéma, mais aussi parce qu'il y a un cinéma américain qui est fort. Voilà.
Parce que j'explique, les recettes des films américains servent en partie à financer le cinéma français.
Exactement.
S'il n'y avait pas les blockbusters, il n'y aurait pas ce cinéma d'arrêt d'essai.
Exactement. Et donc, affaiblir les salles de cinéma qui sont la base du cinéma, il faut que les gens aillent en salle, c'est extrêmement dangereux. Et le deuxième sujet, c'est que la profession, qui est en ce moment extrêmement fragilisée, parce que le cinéma a été touché par les fermetures, le Covid, le pass sanitaire, enfin, le cinéma qui est fragilisé s'est mis alors, complètement dans les mains de Canal+, puisqu'il n'y aura aucune concurrence possible sur la télévision à péage telle qu'elle existe actuellement, et que même il y a des règles assez dures à accepter, c'est-à-dire des sanctions punitives qui font que si jamais la profession acceptait que Netflix, au lieu d'être à 15 mois, soit à 12 mois, eh ben, Canal+ enlèverait 50 millions d'euros au financement des films français. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve inacceptable.
Vous représentez qui dans la profession du cinéma français ? Les auteurs seulement, ou également les exploitants, les distributeurs ?
Ah non, non, moi je représente que les auteurs, les scénaristes, les réalisateurs, mais il y a aussi des réalisateurs, des scénaristes qui pensent que ce qui était primordial, c'était d'assurer le financement du cinéma pour le futur, parce qu'ils pensent à faire leurs films, et qui ne sont pas eux-mêmes inquiets par cet accord. Mais moi, mon rôle, comme je ne peux pas être soumis à des pressions, mon rôle est de voir un peu plus loin et d'avoir une stratégie, je dirais, d'ouverture. L'intérêt du cinéma, c'est d'avoir plusieurs sources de financement. C'est de ne pas dépendre que d'une personne, que d'une décision. Et là, ça restreint le choix, parce que je pense que les plateformes, et en particulier les plateformes cinéma, auraient pu être de bons investisseurs pour les films.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre raisonnement. Autrefois, avant l'arrivée d'Internet, il y avait les salles, la télévision, est arrivée la télévision à péage, et maintenant sont arrivées en plus les plateformes. Pourquoi un média supplémentaire, dites-vous que ça restreint ?
Ah non, je ne dis pas que ça restreint. Ce qui restreint, c'est l'accord. Le gouvernement a obligé les plateformes à investir dans le cinéma, et ça, c'est une bonne chose, mais...
Ça, il faut dire, c'est une loi très récente. Je crois que c'est combien, 20% où elles sont obligées. Les services de vidéo à la demande devront aussi consacrer moins 20% du chiffre d'affaires qu'ils réalisent en France au financement à la production d'œuvres cinématographiques.
20% pour la production globale, donc 4% à l'intérieur pour la production cinématographique. Donc il y a une ouverture indéniable du système, et ça, on le doit au gouvernement français qui a fait modifier la législation européenne. Avant, on ne pouvait pas soumettre à des obligations des opérateurs localisés à l'étranger, comme les grands opérateurs Internet. Maintenant, on peut le faire. Et le gouvernement français a adopté un décret qui crée des obligations qui sont de très loin les plus fortes en Europe. Les autres pays d'Europe ont pris des obligations beaucoup plus faibles.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand bien même vous ne l'avez pas signé, il y a des choses positives selon vous dans cet accord ?
Oui, il y a une chose positive. C'est quand même le raccourcissement du délai. On a remis un peu l'église au milieu du village, puisque maintenant le péage est avant le clerc. Alors qu'avant le précédent accord, comme les plateformes n'existaient pas, elles n'étaient pas vraiment là, on les avait repoussées au fond de la classe. Là, on les a mis à leur place normale, mais une place normale qui est encore éloignée de la diffusion en salle.
Est-ce qu'un film produit par Netflix, par exemple, pourrait être disponible en DVD, par exemple ?
Ah oui, sans problème.
Ça, sans problème. Autre chose qui vous pose problème, c'est que vous dites que cet accord a été figé pour 3 ans. C'est trop court ou c'est trop long ?
C'est beaucoup trop long, parce que le monde a changé. Entre le moment où on a nous-mêmes changé notre chronologie, qui était totalement archaïque par rapport à ce qui se passait dans les autres pays, du fait de la crise Covid, il y a eu une accélération formidable de la diffusion des films. Et actuellement, le délai moyen de diffusion d'un film entre la salle et son premier diffuseur, qui peut être par exemple une plateforme ou une télévision à péage, c'est 45 jours. 45 jours. Alors, ouais. Quand vous lisez nos règles, on est complètement décalé. C'est-à-dire qu'il y a des films qui vont sortir et être disponibles en Belgique. Ils ne seront pas disponibles en France. Et c'est quand même une certaine incitation à la piraterie ou à s'équiper d'un VPN pour contourner la réglementation.
On ne l'a pas dit, c'est un autre sujet, mais la chronologie des médias est différente suivant qu'on soit dans tel ou tel pays d'Europe. Dernière question, vous n'avez pas signé, la SACD n'a pas signé. Ça change quoi ?
Ça ne change rien pour le moment, mais... je pense qu'on s'apercevra dans quelques mois que nous avions parfaitement raison de ne pas signer cet accord, parce qu'il y aura certainement des difficultés du côté de l'exploitation, car je crois que les grandes plateformes cinéma n'accepteront pas ces règles.
À la revoyure, comme on dit. Merci beaucoup, Pascal Regard. Je rappelle que vous êtes directeur général de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Dans un instant, on passe de la SACD à la SACEM.